Chapitre 9. Le nouveau locataire n'avait pas mangé ni dormi. Il ne parvenait pas à se débarrasser des effluves du déodorant qu'il avait assailli dans l'auto. Pieds nus, il allait et venait de la fenêtre à la douche et de la cuisine aux toilettes. Brouche, il avait tensé. « Espèce de minus ! Ça fait 3 mois que tu es planqué là et la vieille n'a pas bougé d'un millimètre !» « Ça fait 3 mois que tu bouffes à mon compte, que tu loges à mon compte, et le résultat, zéro. Zéro !» Désemparé et angoissé, il était coincé à gauche et à droite entre les deux mercenaires de Brouchy, dont les bras lui frottaient la peau nue et l'empêchaient de faire un mouvement. L'odeur du déodorant se mêlait à celle de sa sueur, et il se pressait contre lui comme s'il voulait s'enfuir. Le général, le parrain solide et fier de la mafia de l'immobilier, assis à son poste, une main sur le volant, l'autre sur le dossier du siège, le visage tourné vers le prisonnier en sueur, en tricot et en pantoufles déchirées, pérorait. « Qu'est-ce que tu crois, mon chéri ?» Il se permit de lui pincer le menton jusqu'au sang, entre deux doigts froids. Rafi, sentant une forte douleur à sa gencive inférieure, lâcha un « Aïe !» lamentable. « Non, ne me réponds pas. Je me fiche de ce que tu penses. Ce qui compte, c'est ce que je pense, moi. Et moi, je pense qu'il y a dans le terrain de la vieille de quoi arranger la vie à pas mal de monde, y compris les enfants et les petits-enfants. Et à toi aussi, si tu n'étais pas un zéro comme ça. Bon, ce que je dis, c'est comme ça. Ultimatum. Tu as 3 mois. Au bout, pas de résultat. Tu me rends tout ce que j'ai mis sur toi, plus 20 000 pour le désagrément et la TVA sur le tout. » Brouchy ouvrit la poche à gants et en tira une boîte de cigares de qualité. « Serre-toi, mon chéri !» L'autre, qui voulait vomir, repoussa la boîte d'un coup de poing. « Pas de bons offices !» Brouchy éclata de rire. « Oh oh ! Quand tu veux, t'as de la gueule !» Il se retourna vers son volant et ajouta « Lâchez !» Klein sortit de la voiture pour laisser passage aux prisonniers. Tous trois le regardèrent s'éloigner. Pitoyable et tout courbé, il ouvrit le portail, se reprit et émit un énorme crachat. Mais le bouillonnement du sable ne lui rendit pas le respect de soi, pas plus que le « fils de pute !» qu'il lâcha en claquant le bâton. Il entendit le crissement des pneus sur l'asphalte et, avant de rentrer chez lui, il se retourna, comme craignant d'être poursuivi. Il aperçut alors un vieil homme maigre, vêtu d'une chemise couleur bordeaux, boutonnée jusqu'au cou et d'un pantalon marron, qui entrait par le portail qui venait juste de récupérer après le choc reçu. L'homme tenait un gros sac de plastique d'une main et un bouquet de roses de l'autre. « C'est l'invité de la vieille. À cause de lui, elle m'a appelé et jeté en proie au chien. Elle voulait être tranquille. » Il rentra et se sentit vidé de tous les liquides de son corps. Se penchant sur l'évier, il apposa ses lèvres au robinet et but à de nombreuses reprises. Il passa sa tête sous l'eau et le jet frais rejaillissait de tous côtés. La fraîcheur de l'eau le calma, mais ne put le libérer de son image de cafard immonde écrasé par la semelle hautaine du maître. Il fallait s'en aller et disparaître, voilà. Il prendrait ses affaires et s'en irait au sud ou au nord du pays, dans une ville de province, dans un village arabe. Il ferait la plonge dans l'office craspé de quelques restaurants et resterait planqué là jusqu'à nouvel ordre. Il allait de la douche à la chambre, puis à la fenêtre, et répandait partout l'eau qui lui coulait du corps. Après un tour complet plein de nervosité, il renonça à l'idée. Dans un si petit pays, on n'a pas où se sauver. Ce mafiose ferait appel à la police et à ses contacts dans la pègre, et on le pincerait en 28 heures, 48 au plus, même s'il se teignait les cheveux, se rasait les sourcils et se laissait pousser la barbe. Il se rendit à la chambre à coucher. Quelle absurdité! Il n'y a pas où se cacher. Il cherchait quelque chose d'alcoolisé à boire et s'énervait. Quelqu'un veut disparaître, recommencer à zéro, demeurer incognito, se séparer de toutes ses connaissances et de ses amis. Il veut s'en aller, une volonté si fondamentale, et la société l'en empêche. Quelle idiote, cette humanité qui creuse sa propre tombe et se passe elle-même au cou la corde de la bureaucratie. Ce que le plus crétin des chats peut se permettre, cet homo sapiens génial s'en prive lui-même. Il aurait tué ce Brouchy, il lui aurait sauté à la gorge par derrière, l'aurait étranglé de ses deux mains et lui aurait coupé... Il vida le fond d'une bouteille de whisky de mauvaise qualité qu'il avait achetée un jour, chercha encore quelques gouttes de breuvage oubliées dans les armoires de cuisine, claquait les portes les unes après les autres, jurait et ruisselait de sueur. Il s'était assis dans le vieux fauteuil pourri que la vieille avait mis dans l'appartement, ainsi que d'autres articles périmés, et il se frappa le front. « Calme-toi, Rafi, calme-toi. Comme ça, ça va être la rupture d'anévrisme ou l'attaque cardiaque. » Il ne manquait que ça, qu'on vienne le ramasser en ambulance et sur un brancard. Les paramédicaux mâles et femelles lui regarderaient le fond de l'œil, la poitrine flasque, le ventre rebondi et rose, le slip à bon marché, style octogénaire, qu'il avait acheté à 2 pièces pour le prix d'une, au centre commercial. Il allait se doucher, se raser, changer de linge et revêtirait le boxer rouge tout neuf qu'il gardait pour le tête-à-tête idyllique, et c'est ainsi qu'il se préparerait à être ramassé sur le carreau. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lavé, rasé, coiffé, habillé, les lunettes bien essuyées, il ne parvint pourtant pas à reprendre ses idées. Il reprit sa course de la fenêtre au lit, du lit à la cuisine, de la cuisine à la fenêtre, et habituer son esprit à l'idée de donner une bonne leçon à ce Brouchy. Il sortit, acheta une bouteille d'alcool, but, se coucha, mais ne s'endormit pas. Il ouvrit le nécessaire de vol qu'il avait acheté un jour dans un magasin de camping, se boucha les oreilles, se couvrit les yeux, mais, au lieu de libérer son cerveau, il le concentra tout entier sur le sujet qui l'occupait, depuis que son derrière avait quitté si piteusement la banquette de cuir de la Mercedes. Il arracha la visière, libéra ses oreilles et vit de son lit la lune qui montait à pic dans le firmament. Couché et tout éveillé, il ne pouvait dormir. La première lueur du jour parut à la fenêtre et les pigeons commencèrent à se battre sur le toit. Comme il pensait à se lever, à enfermer sa folie dans l'appartement et à se rendre chez Yves et Motti, maintenant qu'il avait justement quelque chose de précis à faire, le sommeil le prit et il s'endormit. En retournant de chez Yves et Motti, assis à l'arrière de l'autobus, il avait l'impression qu'on lui avait arraché une tumeur à la tête. Plongé dans son siège, il pensait avec plaisir à Obama, le perroquet de Motti. « Bravo, Motti ! Bravo, Motti !» criait l'animal en observant le monde du haut de l'épaule fragile de l'enfant. Ziva prétendait que cet Obama savait aussi jurer et faire la prière sur le vin. « Que tu le veuilles ou non, c'est lui le chef ici. On ne jure que par lui. » À part ses talents d'orateur, ce perroquet était aussi un bon acrobate. Il savait se tenir debout sur une épaule qui se soulevait et s'abaissait, se figeait ou se convulsait dans des frémissements involontaires et inattendus. Le manque de communication entre Motti et ses membres n'intéressait guère le volatile. Il ne faisait aucune différence entre l'épaule du garçon et une branche frissonnante au vent. L'important était qu'il y ait quelque chose sur quoi et de quoi sauter. Motti riait beaucoup et pleurait peu. Ziva, c'était le contraire. Depuis longtemps, elle aurait dû se teindre les racines. Son crâne en produisait de deux sortes qui semblaient refléter le combat qui se livrait dans sa tête entre le blanc et le noir. On voyait déjà 4 bons centimètres couleur nature entre le cuir chevelu et le blond. Raffi avait évité de la réprimander avec des phrases du genre « Tiens-toi, arrête de fumer, va soigner tes dents ». Il avait vu ce qu'il fallait voir et n'avait rien dit. Il avait remarqué que les pièces de plastique de la chaise roulante étaient en décomposition et le métal tout rouillé. Elles se croisaient les jambes et ne les laissaient jamais en repos, comme si elles étaient mues par un moteur invisible. Elle était maigre, se remplissait de nicotine et de café, mais elle restait belle, peut-être même plus belle encore. Les malheurs et la douleur lui collaient les os à la peau, et ses yeux brillaient d'un éclat noir qu'il n'avait pas encore, du temps où les garçons lui couraient après et où la vie ressemblait à de la barbe à papa toute rose. Elle lui avait dit « Regarde, Rafi, une bonne chose que Dieu a faite, c'est d'avoir pris les parents avant la naissance de Moti. Si papa l'avait vu comme ça, il aurait brûlé sa calotte. » Elle se leva et alla réchauffer du potage pour eux trois. De la cuisine, elle lui criait « Papa, quand quelqu'un le doublait, il coupait les ponts, il le rayait illico. Et le grand-père Mardochet, ce juste, lui, en voyant le destin d'un gosse qui porte son nom, il aurait retourné la baraque et il aurait traîné Dieu en justice. Il aurait pas pris de gants, il aurait braillé, fichez-moi la paix avec le généreux et le plein de miséricorde et tout ça. » Moti écoutait et riait. En fait, seule la bouche riait. Il avait un œil sérieux et l'autre caché sous la poche de la paupière. Ziv apportait deux assiettes de soupe. Quant à maman, elle serait restée avec Dieu rien que par peur. Elle disait toujours « Surveillez votre bouche, il y a toujours pire que le mal. » Obama quitta l'épaule de Moti pour la soucoupe de graines que lui avait apportée Ziv. « Mange, mon gars, mange !» Elle donnait à manger à son enfant, elle essuyait les commissures dégoulinantes de ses lèvres et attendait la cuillère en l'air qu'il avale la précédente. Rafi avait reçu lui aussi son assiette de potage aux lentilles, bien épicée, comme il l'aimait, épais et fondant. « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de soupe au goût de la maison. » Il voulait dire « des mains qui épluchaient, coupaient, mettaient dans la casserole et remuaient patiemment, et non un ersatz de restaurant où l'on mettait du glutamate, du sel de sodium, de l'eau et un peu de basilic par-dessus, une étiquette de bonne santé sur un potage malade. » Ziv a l'encouragé. « Bon appétit, Rafi. Mange, mon frère !» Comme le perroquet, elle savait tenir une cuillère en l'air sans rien renverser, malgré les mouvements gauches des bras de Moti qui se levaient, se rabaissaient, allaient à gauche et à droite, avec des doigts dans toutes les directions. Il voulut lui demander quelle était la chose qu'elle souhaitait le plus, qu'est-ce qu'elle désirait le plus de toutes les choses qu'on pouvait désirer, mais il se perdait en conjectures sur la façon de poser la question. Elle mit un terme à ses pensées. « Et toi, tu es content à Jérusalem? Le travail, ça marche ?» Il mentit. « Je me sens bien et le boulot marche. » Comment aurait-il osé lui enlever le réconfort d'un appui et la certitude que tout ne marchait pas de travers? Tant mieux. Elle chassa Obama de son assiette et l'oiseau retourna sur l'épaule de Moti. « Attends qu'il ait fini son potage, crétin !» Le perroquet répéta après elle « Crétin ! Crétin !» Et Moti éclata de rire, laissant couler le potage de sa bouche. Rafi se leva pour nettoyer, mais Ziv avait plus d'expérience et de rapidité que lui. Elle vit qu'il regardait les jambes atrophiées de l'enfant. « La sécu m'a accordé une indemnité ambulatoire pour lui. » Une auto exemptée de taxes, comme si sans taxes, ça voulait dire gratuite. Comme si j'avais les fonds nécessaires pour ça. Une chevrolet, prononça Moti en riant. Pourquoi pas une Rolls, mon gars? Une Rolls? Il est gourmand, ce gamin-là. Allez, finis ta soupe, mes yeux. Après, on te filera du gel dans les cheveux, comme un Justin Bieber, et on te mettra dans la Rolls. » Elle passa la main sur le crâne rugueux de son fils et son regard se porta au loin, loin de la maison et du HLM. De retour à la réalité, elle s'adressa à son frère. « Tu es devenu un intellectuel, Rafi. Moi, je suis restée la même. Mais je sais parler autrement aussi. Autrefois, je parlais avec de belles phrases, mais depuis que la vie m'a ratatinée, alors je parle comme les ratatinés. On doit se conformer au cadre dans lequel la vie nous enferme, non ? » Maintenant, dans l'autobus, sur la route du retour, il tira de son sac à dos le sandwich qu'elle lui avait préparé. Il y avait là-dedans une omelette, un cornichon, de la tomate, de l'avocat, des olives, en bref, tout ce qu'elle avait dans son frigo. Tout ça avait fait craquer les deux grosses tranches de pain qui bâillaient. Il déplia l'emballage jusqu'au milieu et mordit, heureux de sentir chaque bouchée sous sa dent. En allant chez Yves, il était comme une fourmi écrabouillée et Brouchy comme la tour Arzieli. Maintenant, Brouchy se réduisait à la taille d'un point de vente de billets de loterie. Chaque seconde chez sa sœur rapetissait le requin jusqu'au minimum. Chez Yves, on est face à la réalité, on voit la vie tout épluchée, sans façade, l'os à nu et pas un gramme de chair sur l'os. Chez Yves, le prix de gros est le même que le prix de détail. Chez Brouchy, on vous met un masque. Derrière ce qu'on voit, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Quand sa sœur l'avait raccompagné à son départ, il lui avait dit « Tu sais, tout ce qui marche en ce moment à Jérusalem, c'est rien à côté de ce qui va encore arriver. Et cet avenir, il est tout proche. » Il n'aurait pas parlé ainsi s'il n'avait élaboré aussi pour elle quelques projets. Dès qu'il était entré et avait vu sur les joues de Motti quelques poils épars, il avait pris sa décision. « Tu ne te sauves nulle part, Rafi, ni à Eilat, ni à Foula, ni à El Fahem. Motti va bientôt cesser d'être un enfant et la vie de Ziv va encore se compliquer. » Il lui avait suffi d'une demi-livre de soleil dans le salon pour tout comprendre. Ce rayon tombait sur Motti et mettait en relief le duvet qui poussait çà et là sur sa poitrine pâle, tout en éclairant la fumée du désespoir de Ziv qui montait vers le ciel. Cigarette après cigarette, elle semblait vouloir faire un trou dans l'ozone et souffler la fumée tout droit dans les yeux de Dieu. Cette lumière lui avait fait apparaître d'un coup le présent et l'avenir de Ziv. Obama sauta sur le rayon et piétina la poussière qui recouvrait le carré lumineux, tout en braillant « Allez ! Allez !» C'est comme ça qu'il crie quand il est content. Il crie « Allez !» comme si on partait en voyage. Elle se pencha sur la chaise de Motti, lui mit les jambes en mouvement et lui massa les genoux. Rafi lui dit de bouger et la remplaça dans le massage des genoux durcis et des cuisses minces de l'enfant. Il sentit que ses mains pleuraient. Motti riait. « Tonton Rafi ! Tonton Rafi !» Et Obama reprenait en cœur. Assis dans cet autobus, tout ce qu'il avait vu chez Yves, classé dans son esprit, se déroulait feuille après feuille, malheur après malheur, et Rafi serrait les poings. Mais il avait son plan bien établi, étape par étape, et il allait le mettre en pratique résolument dès le lendemain matin. Il regretta d'avoir avalé le sandwich, mais il avait encore un bout de gâteau de Ziv qu'il garderait pour le soir. En rentrant, il prendrait une douche, se ferait un café, mettrait le bout de gâteau sur une assiette, en mangerait la moitié et, s'il en avait la force, garderait le reste pour le matin suivant. Tout en pensant à la soirée minable qui l'attendait, il se souvint de Julia et de son fils, un garçon sensible et délicat comme une fleur, à peu près de l'âge de Motti. Peut-être les inviterait-il à partager son gâteau ? Le mieux serait qu'elle vienne toute seule, bien qu'il n'ait pu deviner si elle l'appréciait ou si elle l'avait en horreur. Peut-être valait-il mieux que le garçon vienne aussi et que la pression se répartisse entre trois. Au cas où les sujets de conversation s'épuiseraient, il pourrait toujours s'adresser à lui. Quelle classe? Quelle école? Qu'est-ce qu'ils apprenaient en littérature? Jusqu'ici, il avait rencontré sa voisine dans l'escalier, au portail, à l'entrée et à la sortie de la cour, et ils avaient échangé un ou deux mots, une plaisanterie ou deux, mais à chaque fois, il avait senti comme de l'ironie dans son regard. Une semaine et demie auparavant, le Shabbat matin, elle étendait du linge sur un séchoir portable au milieu de la cour. Elle avait un pantalon de toile bouffant, un tricot rouge béant, pas de fard, pas de talons, mal coiffé, avec une touffe de cheveux au milieu du crâne que le peigne n'avait pas touché. Elle lui sembla plus âgée que d'habitude, mais il se sentait attiré au moins, sinon davantage. Il se disait « Même s'il y a 20 ans entre nous, je la veux, et que sa date de naissance prenne feu, je m'en fiche. » Dans le ciel, de lourds nuages allaient et venaient, tantôt cachant le soleil, tantôt lui laissant passage. « Il va pleuvoir, votre lessive va être trempée. »« Soyons optimistes, la pluie attendra. » Elle semblait bien sûre d'elle, comme si elle était en dialogue constant avec Dieu. Une pince à linge dans la bouche, elle étalait un tricot de peau de son fils sur le séchoir. Tirant la pince d'entre ses lèvres, elle prononça « Et puis, si c'est trempé, c'est pas grave, ça séchera après. » Rafi observait ses mouvements, son attention, sa rapidité, les plissements de son front à chaque hésitation, si elle allait pendre deux slips plus près ou faire de la place ailleurs pour une serviette, s'il valait mieux pendre un tricot par les épaules ou par l'ourlet. Femme jusqu'au bout des ongles. Si c'était la mienne, je ne la quitterais jamais des yeux. Il remarqua que la bassine se vidait et que le travail allait s'achever. Vous faites quelque chose aujourd'hui ? Il s'étonna de lui-même. Comment la question était-elle sortie, comme indépendante de lui et provenant d'une autre bouche ? Mais il eut une vive satisfaction. « Pourquoi posez-vous cette question ?»« Je me disais que, si vous êtes libre, on pourrait peut-être faire un petit pique-nique ensemble. »« Vous avez une auto ? » demanda-t-elle en faisant voler en l'air les pans d'une serviette qu'elle étala selon le pli. « Non, à part ça, je ne voyage pas le Shabbat. » Il se réprimanda. « Idiot ! Pourquoi tu as foutu le Shabbat au milieu ? Tu n'es pas tellement dévot que ça. Si tu avais la moindre chance avec elle, tu monterais illico sur une fusée. Et comment ?» Elle rit. « Alors, comment ?» La nouvelle pince qu'elle inséra dans sa bouche lui découpa le rire en deux. « On peut par ici, au Partsac, au Jardin de l'Indépendance, » répondit-il, ne se pardonnant pas la bévue du Shabbat. S'il avait eu une auto, elle aurait dit « oui » et il n'y aurait pas regardé deux fois pour profaner le Shabbat. Et alors, elle et Dieu auraient entendu son cœur et lui auraient pardonné. Au moment d'œuvrer pour le nom divin, on passe outre au commandement. Tous les rabbins vous le diront, tout acte qui comporte une chance d'amour ou la constitution d'une famille, cela s'appelle œuvrer pour le nom divin. Quand le judaïsme le veut, il sait très bien légaliser ses petites infractions et même les grosses. Comment ça, quand le judaïsme le veut, tant qu'on n'est pas marié et qu'on n'a pas d'enfant, on compte pour du beurre? Adam a un examen de maths demain et il faut qu'il étudie. Elle accompagna ses paroles d'un regard au ciel qui mesurait les chances de pluie. « Alors, on peut, vous et moi, non ? Comment êtes-vous en maths ?» Cette fois, il remarqua que le gris et le violet se disputaient la prépondérance au fond de ses yeux. « Comment était-il en maths ? il ne lui inspirait aucun intérêt, si ce n'était que pour donner des leçons à son rejeton. Cela fait des années que je n'ai touché aux matières qu'ils apprennent à l'école. Contre-paiement, je voulais dire. Elle souleva la bassine vide et la pressa des deux mains sur son ventre. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un type qui se souvient des maths juste quand on lui propose de l'argent. Il plongea longuement ses yeux dans les siens et elle cligna la première. La silhouette fragile de son fils apparut sur la galerie. « Maman, téléphone !» Elle sauta sur l'occasion, demanda pardon, se dirigea vers la maison et, avant de monter, se retourna en lui souhaitant un bon Shabbat. Une étincelle brillante avait jailli de ses yeux. Il resta là un moment, sachant qu'il n'avait plus rien à attendre. De notre côté, il était content d'avoir sauvé un peu du respect de soi. Il rentra chez lui et, quand la pluie commença à tomber, il la vit arriver pour sauver sa lessive, se battre contre le vent et étaler une nappe de nylon sur le séchoir. Mais la bourrasque était plus forte qu'elle. Il la regarda lutter et ne lui offrit pas son assistance. Maintenant qu'il rentrait à Jérusalem de chez Yves, il sentait que les forces lui revenaient. Il n'était plus une épluchure écrasée et il avait les pieds bien sur terre. Il n'avait plus peur de lui proposer un café et du gâteau, avec ou sans son fils. Maintenant que le sang-froid lui revenait, elle le regarderait comme une femme regarde un homme, et que la volonté divine soit faite. Mais les affaires avant le plaisir. Il referma le sac d'où sortait le doux parfum du gâteau. Le lendemain matin, il partirait en guerre pour assurer la défaite de Brouchy. Il s'adresserait à la vieille et mettrait résolument son plan en action. Il utiliserait toute l'artillerie rhétorique dont il disposait, il ferait pression, il ne lâcherait pas jusqu'à ce qu'elle commence à céder et à capituler. Mais le lendemain matin, il trouva la vieille dame complètement déboussolée. Elle disait tellement de bêtises que ce n'était même pas la peine d'essayer. Johanna lui expliqua. « Elle, beaucoup bu alcool. Elle, à voix romantique, avec l'homme, il était là, Bruno. Vous voulez dire à Madame Hanna ?»« Je reviendrai plus tard, peut-être ce soir. » La vieille était assise dans son fauteuil, dans le salon, et le regardait comme s'il était le médecin. Elle se plaignait de maux de tête et riait comme d'une bonne plaisanterie. Elle semblait encore plus malingre et décrépite que d'habitude. Son air harassé et accablé firent pitié à Rafi. Maintenant qu'elle avait trouvé l'amour, elle n'avait plus de force pour lui. « Mieux venir après-midi, Madame Hanna à dormir, et après sera très bien. » Il remercia Johanna, lui sourit et prit bien soin qu'elle accuse réception de ce sourire. « Brave femme, » pensa-t-il. Il s'en voulait du rôle que jouait la peur de la sécurité sociale dans son plan de bataille. Si les résultats justifiaient l'espérance, il aurait bien de quoi la dédommager. Il revint à l'heure dite. Hanna Yona, assise dans son fauteuil, trempait un petit pain dans son thé et avait l'air de revenir d'une pneumonie carabinée ou de quelque autre maladie maligne. Malgré la pâleur et la maigreur de son visage, il offrait l'image d'un profond bonheur. Elle lui sembla rayonnante et assez lucide pour lui permettre de passer directement au sujet de sa venue. « Madame Yona, je vous veux du bien. Je veux vous mettre en garde. » « C'est gentil à vous. Encore un qui va me dire que l'amour, c'est pas bon pour le cœur et pour la pression et que ça risque de me tuer. Eh bien, je vous le dis franchement, mon lapin, j'aime mieux mourir d'amour que d'une saloperie de crise cardiaque dans mon lit. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un qui peut choisir son bourreau? Il préfère l'attaque à l'amour? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tombé sur la tête ?» Elle frappa du poing sur la table à en faire sauter la tasse de thé. « Non, je ne viens pas pour des questions d'amour, Madame Yona, au contraire. Y a-t-il sur terre quelque chose de plus louable que l'amour? Je vous avoue, la main sur le cœur, je vous envie. Moi, je n'ai pas d'amour, à mon grand regret. » Il se tut un instant, de quoi laisser son aveu faire son chemin. Elle se pencha sur lui avec intérêt. « Vraiment, vous n'avez pas d'amour ? Ne vous inquiétez pas, vous êtes jeune encore et sympathique. Peut-être pas Monsieur Univers, certainement pas. Mais il y a des tas de filles qui ne sont pas Miss Monde. Prenez ma fille Orna, par exemple. Elle aurait pu faire une excellente contrepartie pour vous, mais elle est un peu dure. » Madame Yona, je vous remercie de votre sollicitude, mais ce ne sont pas les mariages qui m'amènent. Je viens vous mettre en garde. » Elle éleva la voix et répartit sèchement. En garde contre quoi? Bruno est un très brave garçon qui ne veut pas un sou de moi. Elle se fâchait pour de bon, et les veines de son cou formaient des points d'interrogation tout le long de son cou. Il s'enhardit et lui toucha le bras. « Vous m'avez mal compris, Madame Yona. Je n'ai rien contre Bruno, au contraire. Dieu veuille qu'il puisse vous aimer et vous rendre heureuse. Mais il faut que je vous mette en garde. Quelqu'un essaie de vous gâcher le plaisir. On va vous dénoncer. » « Me dénoncer? Pourquoi? Pour l'avoir enlevé à une autre femme? Il est célibataire. » Le petit pain se scinda en deux, et une moitié sombra dans les profondeurs de la tasse, dont le contenu prit une teinte plus opaque. Elle essaya de sauver des naufragés à l'aide de sa cuillère, mais ne fit que de la bouillie. Cela aiguisa encore sa colère. Pendant ce temps, Johanna s'employait à plier de la lessive. Elle faisait des piles régulières des serviettes et des sous-vêtements qu'elle avait triés, les serviettes avec les serviettes, les mouchoirs avec les mouchoirs. En entendant le choc de la cuillère sur la tasse, elle ralentit le rythme, un œil fixé au pli d'une culotte et l'autre allant et venant entre Madame Hanna et son locataire. Celui-ci jeta sa grenade. « Rapport à la sécurité sociale, Madame Yona. » Le résultat de l'explosion dépassa les espérances. La cuillère tomba au fond de la tasse, et les mains de Johanna se crispèrent sur le tas de vêtements. Elle se tourna vers lui comme si elle entendait le signal des infos annonciateur d'un nouvel attentat. Il continua à battre le fer encore chaud. Il rapprocha sa chaise et prononça. « Quand vous êtes allé à Tel Aviv, un agent foncier s'est pointé ici. Il veut acheter la maison et il est prêt à mettre beaucoup dessus. » « Rien d'étonnant, direz-vous. L'ennui, c'est que le type a menacé qu'en cas de refus, il vous dénoncerait à la sécu. Il emploie un détective privé qui prétend que vous êtes forte comme un bœuf, que vous n'avez pas besoin d'aide étrangère et que ça fait 5 ans que vous roulez le système en recevant des indemnités et des services auxquels vous n'avez pas droit. Madame Yona, il est dangereux ce type-là. Et puis, il en a une gueule. » Il était là à l'entrée et il disait comme ça que si vous ne vouliez pas vendre, vous le regretteriez, qu'on vous ferait un procès, qu'il faudrait rendre des centaines de milles, toutes les mensualités, plus intérêts, amendes et indexations. Il a même ajouté qu'on vous poursuivrait pour emploi illicite de travailleurs étrangers, qu'on la mettrait elle-même en prison et qu'on l'expulserait du jour au lendemain et que vous alliez maudire le jour où vous avez refusé. Le mauvais temps et le coucher du soleil collaboraient avec Rafi. Le ciel se couvrit de nuages violets où perlaient des gouttes de sang. Cela accentuait le caractère dramatique de ses propos et formait le décor idéal à la catastrophe imminente. La vieille femme crispa ses doigts sur la cuillère et s'insurgea d'une voix creuse et faible. « Mais c'est la maison de Yehuda !»« Excusez-moi de me mêler, mais Yehuda, s'il savait quels malheurs vont vous tomber sur la tête, il signerait à deux mains. Pensez à lui, pourquoi le laisser se tourmenter comme ça dans sa tombe? Il faut le laisser reposer en paix, non? C'est quoi une maison, après tout? Ce sont des pierres qu'on assemble aujourd'hui avec du ciment et qu'on démonte demain pour reconstruire autre chose. La vraie maison de Yehuda, elle se trouve dans votre cœur, Madame Yona. C'est là qu'il réside et personne ne l'en chassera. » La vieille éclata d'un rire strident et court.
« Il signerait des deux mains, vraiment. Les vers les ont déjà bouffés à moitié, ses mains. Maintenant, on doit lui voir les vis platinées qu'on lui a mises au coude après son accident de vélo. Sans parler du défaut dans le doigt quand il tenait son stylo. Son détective, il ne vaut pas plus que mon cul. Excusez-moi de parler comme ça à mon âge. Mais qu'est-ce que cette andouille comprend aux maladies mentales? Qu'est-ce que ce chenapan sait de mon Alzheimer et de ma démence? Si les fonctionnaires là-bas ne croient pas à ma folie, je leur montrerai à qui ils ont affaire. Je m'assiérai toute nue sur la table, je ferai peut-être un petit pipi de surcroît. Ils multiplieront l'indemnité par deux, vous verrez. Johanna, il y a des chemises rouges dehors?
Il y a chemise et aussi un châle rouge à moi, répondit l'employé, les yeux au plafond, indiquant que toutes les mesures préventives avaient été prises en cas d'attaque et le reste à la grâce de Dieu. La vieille dame exprima son contentement en riant et émit encore quelques vagues propos sur les tombes, les morts et les vers de terre. Elle est complètement siphonnée. Il faut vite lui soutirer une signature avant qu'on la mette sous tutelle. Apparemment, il était quand même parvenu à la pénétrer de la peur de l'avenir, car elle cessa à l'instant de rire, regarda Johann, et sans doute pensait-elle avec terreur à sa vie future sans elle. Elle replia ses membres sur elle et demeura ratatinée et prostrée, comme si les créanciers, les policiers et autres solliciteurs se décrottaient déjà les chaussures sur le paillasson avant de frapper à la porte. Raph y les contempla tour à tour et jugea bon d'arrêter là son boniment de crainte d'abuser. Le ciel, à son tour, passait au mélodrame. Le ton tournait au gris sale des mauvais jours qui n'ont plus rien à déclarer. Johanna sortit la première de sa torpeur, alla jeter la tasse de thé pourri et en prépara une nouvelle. Raffi avait donné un coup de bâton magistral, maintenant venait le tour de la carotte. Il exposa en détail les avantages considérables de la fortune prochaine. Elle pourrait acheter un appartement à Tel Aviv, habiter à côté de Bruno, se rendre à Eilat, voyager en Europe, faire... Il fouillait dans son cerveau pour y trouver les objets de luxe susceptibles de séduire une vieille personne. Que pouvait-il encore faire miroiter à ses yeux? Des robes? Des bijoux? Les meilleurs médecins? Un département gérontologique à 5 étoiles? Un dentier en porcelaine? Si vous voulez, Madame Yona, je peux vous aider dans les négociations de vente. Il s'agit de millions. Vous serez une femme très riche, Madame Yona. Ainsi clôtura-t-il le chapitre carotte. Les yeux de la vieille femme étaient vides de toute expression et comme éteints. Ils ne permettaient pas de déceler si elle pensait aux propos de Raffi ou à toute autre chose. Lui-même ignorait si elle avait saisi quoi que ce soit de ses paroles abondantes. Mais à voir la tête de Johann, il était clair que celle-ci avait tout compris et c'était plus ou moins ce qu'espérait Raffi. Il quitta la place. Le ciel avait perdu toute couleur et gardait un gris absent, comme s'il était fatigué d'arborer son bleu quotidien. Raph y sentait que lorsque le ciel témoigne de la lassitude, la force de l'homme s'accroît. Le couvercle du monde s'affaiblit et c'est le moment de se mettre en marche et d'agir. Il monta au second, certain qu'il avait gagné quelques centimètres, perdu de son ventre et renforcé ses muscles. Il frappa chez Yardène. Ami et Tami, les locataires, lui ouvrirent et l'invitèrent à entrer. Il ne pouvait pas maintenant, il était désolé, une autre fois avec plaisir. Il voulait juste un petit service, le numéro de téléphone de Yardène. Il voulait lui faire part de quelque chose concernant sa mère. Tammy arracha la page de la veille d'un petit calendrier collé au frigo et inscrivit le numéro. Raph y redescendit. Il se sentait grandir, mais, en même temps, il savait que cette satisfaction fanfaronne ne durerait guère et qu'il devait exploiter à fond ce sentiment de supériorité avant qu'il ne se réduise de nouveau à ses dimensions ordinaires. Rentré chez lui, il composa le numéro écrit sur le bout de papier et appela Yarden. Somnolent sur le canapé dans son appartement de Tel Aviv, Yarden fut réveillée en sursaut par le téléphone. Entre le rêve et la réalité, elle demanda « Qui ? Comment ? Une seconde ! Qui est à l'appareil ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, je vois ! Qu'est-ce qui se passe ?» Elle parlait et posait les questions tout en scrutant ses ongles des pieds qui méritaient une coupe sombre. Un vent froid montait de la mer et la faisait frissonner. La fenêtre était ouverte et il faisait presque noir. Elle ne savait combien de temps elle avait dormi. Rien moins que le locataire de sa mère ne l'intéressait. Il disait qu'il avait quelque chose d'important à lui communiquer qui devait influer sur l'avenir de toute la famille. Impossible de traiter la question par téléphone, il voulait prendre rendez-vous avec elle. Elle accepta, surtout par volonté de s'en débarrasser. Elle avait froid et voulait se faire un café. C'était vraiment le dernier homme à qui elle aurait voulu adresser un regard et une minute de sa vie. Comment avait-il eu son numéro ? Comme elle posait le récepteur, Dana entra en courant, le lièvre sur ses talons. Elle avait entendu la fin de la conversation.
« Qui c'était au téléphone ?»
Raffi, le locataire de Mémé. « Va mettre quelque chose, Dana. Il commence à faire froid. » Les joues de l'enfant semblaient brûlantes. Depuis qu'elles avaient emménagé, on aurait dit qu'elle avait constamment de la fièvre. Quelques minutes après qu'elles eurent déposé leurs bagages, les jumeaux d'en face frappaient à la porte. Elle leur avait ouvert et depuis, cette rougeur ne l'avait plus quittée. Il l'avait toisée de haut en bas et elle de même. Il se taisait et elle restait muette. Puis le lièvre avait sauté entre ses jambes. Dès qu'ils furent deux contre deux, tout le monde avait demandé comment on s'appelait. Leur réponse à eux, un garçon et une fille, avait été Tom et Tamar. Depuis, 10 pattes, y compris les 4 du lièvre, galopaient dans l'espace public qui séparait les 2 appartements dont les portes s'ouvraient et se claquaient des 10aines de fois par jour.
« J'ai pas froid, maman. Allez, Herz, pourquoi qu'il a appelé ?»«
Il veut venir nous voir. »«
Pourquoi faire ?»
demanda-t-elle en fronçant la lèvre supérieure et en levant un genou. Évidemment, l'éventualité que les représentants du passé viennent faire irruption dans la vie nouvelle, parfaite, qu'elle menait à Tel Aviv, ne l'enthousiasmait guère.
« Juste, te marie pas avec. Allez, viens, Herz. »
Elle tira le lièvre derrière elle. Les têtes des jumeaux apparurent à la porte et le quatuor s'évanouit instantanément dans l'appartement d'en face. Yarden alla se faire un café. Par la fenêtre de la cuisine, elle regarda la cour que gagnait l'obscurité, le piaillement d'une foule d'oiseaux et l'odeur des algues et de l'air salé de la mer. Un rez-de-chaussée près de la côte, c'est ce qu'elle avait cherché et trouvé. Elle n'aurait jamais cru que 2 ficus auraient pu l'amener inlassablement à sa fenêtre, jour après jour. Elle ne savait pas qu'elle trouverait là un ciel fin et plat comme du papier de cellophane. Quelle différence avec la lourde splendeur du firmament de Jérusalem ! Dans la ville sainte, on marche avec le casque de Dieu et de l'histoire sur la tête, et ici, ce n'était que vapeur, poussière et vide. Tout en buvant, elle pensait
« Qu'il s'amène, ce Raffi ! Il ne doit pas avoir grand-chose à me dire que je ne sache déjà. Quoi ? Que maman est cinglée, qu'elle boit comme un trou et qu'elle fait des bêtises ? qu'elle se promène en combinaison dans la rue, que les grues font trembler la cour ? Quel fossé avait creusé entre elle et ses sœurs et la maison les 60 kilomètres qui séparent Jérusalem de Tel Aviv ? Comment avait-elle laissé cet hôtel de luxe qu'elle administrait avec tant de brio s'emparer de toute sa personne ? D'accord, loin des yeux, loin du cœur. Mais à ce point-là, 60 kilomètres, 70 tout au plus. Non, ce n'était pas la distance, mais la réussite. Celle-ci la projetait en avant et laissait loin derrière tout ce qu'elle avait oublié. Et quelle réussite resplendissante ! Tous les employés la considéraient avec respect et obéissaient au doigt et à l'œil. On affichait complet la plupart du temps. Les bénéfices remplissaient les caisses de Tsatchi et ce dernier lui en témoignait sa reconnaissance par un salaire excellent. Pourtant, elle avait du mal à admettre qu'une installation qui mettait les gens au lit la nuit pour les oublier le lendemain pouvait faire concurrence à ses liens de famille. Les hommes non plus, c'était du passé. En arrivant ici, elle avait laissé de côté ses talons et ne se promenait plus comme un dindon. Elle ne pendait plus de scalps à sa ceinture. Elle ne pointait plus chaque fois qu'un mâle la reluquait ou bavait derrière elle. Pour le moment, personne ne partageait sa couche, malgré les occasions qui s'étaient présentées et malgré les prétentions de Tsatchi, non encore résignées. Il l'attendait, prétendait que Tel Aviv agissait sur elle comme l'alcool et la drogue et comme un cours de cabale bidon. Il avait prophétisé. « Ça te passera. Un beau jour, tu te lèveras et tu te réveilleras et tu rencontreras Yardena dans la glace. » Mais ce matin-là n'arrivait toujours pas. Depuis qu'elle avait tracé nettement les limites, il arrivait à l'hôtel tendu et nerveux et ils ne parlaient ensemble que des affaires. Il ne lui demandait plus de ses nouvelles et ne la complimentait même pas pour la réussite qu'elle avait apportée à l'hôtel. Le jour où elle avait déclaré « Tsatchi, nos relations se limitent à la sympathie et aux affaires. » Il avait répondu « Sympathie et affaires, ok. » Il avait fermé le téléphone, mais dans son cœur, rien n'était fermé du tout. Lors de sa première visite dans cet hôtel dont il était propriétaire, il avait laissé en l'air la main qu'elle lui tendait. « Yardena, c'est quoi cette main ? On a fait pas mal de choses ensemble, non ?» Il l'avait observée et avait dit « Tu es changée ». Elle n'était presque pas fardée, avait changé son rouge à lèvres en un rose pâle et elle portait un corsage large qui montrait maintenant moins qu'il ne cachait. « Dis, tu vas me dire que tu retournes au judaïsme ou à la pudeur, que sais-je ?»« Je reviens à moi-même, Tsatchi. J'ai vécu trop longtemps au diapason de ce que les autres pensaient de moi. » Tu m'excuseras de te dire qu'autrefois je te trouvais belle. Maintenant, avec cet apparage sobre, tu es bellissime. » Pendant toute sa visite, il lui tourna autour, résolu à ne pas abandonner la partie. Il se sentait attiré par cette simplicité et qu'elle lui échappait. « Regarde, Yarden, on pourrait bien s'entendre tous les deux. Pourquoi ne pas essayer ?» Elle voulut étendre la main et le toucher, mais elle se ravisa. Elle savait que c'était comme prendre une cigarette quand on a arrêté de fumer. Elle portait des souliers plats et il la dépassait d'au moins une tête. Il avait le visage large, viril, lourd et puissant. Elle l'observait. « Tu sais, tu pourrais jouer un rôle de sénateur romain ou d'empereur dans un film, sérieusement. » Il répondit avec encore plus de sérieux et de préoccupation. « J'aurais bien du mal à me satisfaire de sympathie et d'affaires. »« Désolé, Tsatchi, c'est comme ça. »« Les affaires nous obligeront à nous voir et à converser. Quant à la maigre sympathie que tu m'offres, si j'ai trop de mal à la supporter, je me verrai dans l'obligation de te mettre à la porte. » Elle se redressa, mit les mains dans les poches de son élégant pantalon et regarda par la baie vitrée qui donnait sur la mer. « À la porte ? Je fais pourtant un excellent travail ici. Tu sais, Tsatchi, Tu auras du mal à trouver un bulldozer comme moi. »
« D'accord avec toi, » répondit-il sèchement et en se dirigeant vers la sortie. Son auto l'attendait dans la case du parking réservée au directeur. Debout, elle regardait l'horizon qui coupait la mer.
« Il ne me videra jamais. Cet hôtel va servir de modèle à toute cette industrie. »
Elle regardait la mer qui se plongeait dans l'infini et pensait.
« Quelle bêtise ! Être jalouse de la mer sur laquelle le temps n'a aucune emprise. C'est comme si un cornichon enviait un homme. Et pourtant, je vais sur mes 40 ans, le meilleur de ma vie est derrière moi. C'est une ville où veille son Dieu, où la vie s'achète et se vend à la bourse du temps, et où chaque jour, chaque instant vaut de plus en plus cher. Je n'ai plus de temps à gaspiller. »
Elle se tourna vivement et se dirigea vers son bureau. Décidée à évincer tous ses concurrents, elle se jeta sur les normes d'excellence qu'elle avait fixées à son hôtel. Elle modifia les affectations du budget, mit l'accent sur les relations publiques, améliora le petit-déjeuner et fit changer les rideaux dans les chambres. L'hôtel fut l'objet de 2 articles élogieux dans les journaux locaux et reçut une note excellente sur les sites touristiques. Le prix du séjour atteignit des sommets inconnus et le département des réservations fut inondé par les commandes de clients nantis et honnêtes, habitués à un carré de chocolat belge sur l'oreiller, à de la crème écologique dans la baignoire, à Mozart dans l'ascenseur, aux lourds tapis arméniens et à une atmosphère intime. Pour son emploi, elle ne se faisait guère de bile, il ne la viderait pas de sitôt, il ne se séparerait pas facilement de la mine d'or qu'elle exploitait pour lui. Et puis, s'il se laissait mener par ses sentiments et la mettait à la porte, on la ramasserait immédiatement avec la bonne réputation qu'elle s'était déjà faite. Pas de souci. Tant que l'équilibre de la belligérance demeurerait tel quel dans le pays et dans la région, et que des milliers de balles resteraient tranquilles dans le canon, la branche du tourisme fructifierait encore et elle aurait toujours du travail. Mais l'hôtel et la vie, c'était 2 choses différentes. Le premier, on y entrait et on sortait. Mais dans la vie, elle avait une enfant qui n'allait nulle part. Elle n'avait que 7 ans et demi et, dès sa naissance, elle lui avait déjà échappé. Maintenant, elle payait pour chaque journée où elle ne l'avait pas cherchée. Elle n'aurait jamais évalué la dureté implacable de ses épaules fragiles et la difficulté d'enlacer quelqu'un qu'on n'a jamais enlacé. Qui eût dit que ses petits doigts si tendres deviendraient durs comme des pinces à linge? Là-bas, à l'asile aux filles, elle avait une grand-mère, des tantes, une aide roumaine, et il y avait toujours quelqu'un pour lui préparer une assiette de cornflakes avec du lait, pour lui savonner la tête, pour lui rappeler de se moucher et de se brosser les dents, pour lui mettre un sparadrap sur le genou et pour dire « C'est pas grave, jusqu'au mariage, ça passera. » Mais tout ça, c'était bien fini. La vie devenait un match nul, Yardena et sa fille. Soit la première serait là pour l'autre, soit personne n'y serait. Au début, toutes deux prenaient peur. Elles se sentaient comme en pays étranger, sans carte, sans la langue, sans boussole et sans guide. Yardena disait « Nous sommes comme 2 chats tombés d'un avion. » Et la petite rétorquait « Tu débloques, il n'y a pas de chat dans les avions. » Quelques jours plus tard, pendant le dîner, Yardena avait déclaré « Dana, maintenant il n'y a plus que nous deux et nous devons apprendre à vivre toutes seules ensemble. » La fillette avait planté sa fourchette dans un coquillage de pâtes en disant
« Je ne dois rien apprendre du tout. J'ai déjà assez à apprendre dans cette nouvelle école. Tu sais qu'ils en sont déjà à la table de multiplication ?»
Debout devant la fenêtre, face au ficus dans l'obscurité, elle voyait des lumières s'allumer et s'éteindre dans les bâtiments voisins. Elle buvait son café et écoutait le chant des oiseaux qui perdait de son ampleur, et les cris d'enfants qui couraient avec le lièvre d'un appartement à l'autre. Elle l'appellerait bientôt pour dîner, leur préparerait des yeux brouillés avec de l'oignon, et puis elle s'assoirait en face de la fillette et penserait que c'est l'essentiel de la vie. Ce n'était pas tellement sa façon naturelle et habituelle de penser, mais enfin, elle essaierait. Pour le moment, ces deux projets, l'enfant et l'hôtel, accaparaient toutes ses ressources. Quant à l'asile aux filles, grand bien lui fasse. Cela lui était bien égal que le locataire de sa mère vienne ou non. Deux jours plus tard, il frappait à la porte à 6 heures tapant. Yardena pensa qu'il avait dû arriver plus tôt et avait fait les 100 pas dans la rue jusqu'à l'heure du rendez-vous. Elle le fit entrer. Son crâne déboisé était en sueur, les verres des lunettes embués, le menton rasé de frais. Il portait une chemise verte à rayures et au col boutonné. La poche en laissait dépasser la tête d'un stylo à billes. Tout en l'accompagnant, elle réprima un bâillement. Tous les efforts qu'il pouvait faire pour soigner son apparence et son attitude ne lui ôteraient jamais son teint grisâtre de fonctionnaire desséché et ventripotent. Il était fait pour signer des chèques à un guichet de banque et pour tamponner des lettres recommandées au bureau de poste. Elle posa des boissons fraîches et des petits gâteaux sur la table et remarqua qu'il scrutait l'appartement des plaintes aux solives. Il entra en matière. « Beau quartier. Je suppose que le loyer n'est pas bien bas ici. »«
Oui, le quartier n'est pas mal, » répondit-elle sans rien ajouter.
Elle voulait raccourcir le processus, qu'il dise ce qu'il avait à dire et qu'il s'en aille. Le coin du salon fut soudain envahi par une foule de pieds tambourinant. Dan, les jumeaux et le lièvre se plantèrent à la droite et à la gauche du visiteur et l'observaient. L'animal courait entre ses jambes et léchait les semelles de ses chaussures comme si c'était de la laitue.
« C'est ton oncle ?» demanda le jumeau.
« De quoi, mon oncle ? Il habite dans la maison de ma grand-mère. »
Dan fit une grimace. Une boucle de ses cheveux lui entrait dans l'œil et elle n'y prêtait pas attention.
« C'est le mari de ta grand-mère ? » demanda la jumelle. « Mais non, le mari à ma grand-mère, il est mort depuis 100 ans au moins. Non, non, il habite là-bas et puis il la paie pour ça. »
Elle mâchonnait sa lèvre inférieure et bougeait le genou avec nervosité. Ce rappel surprenant de sa vie précédente lui portait sur les nerfs.
« Pourquoi t'es venu ? »
demanda-t-elle en suçant sa boucle. Il sourit, se baissa sur le sac à dos qu'il tenait près de lui et en sortit un sachet de couleur rose. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle regardait en hésitant et ne tendit pas la main. Le jumeau lui saisit le bras.
« Vas-y, il t'a apporté quelque chose, prends !»
Elle tendit lentement la main et prit le sachet. Les trois têtes se penchèrent sur le contenu. Dan en tira un collier de bonbons palo et 2 coquillettes en forme de papillon aux ailes bleues. Elle retourna le sac pour s'assurer qu'il n'y avait pas autre chose dedans et ils s'éloignèrent vers l'entrée pour partager le butin. L'élastique sur lequel les bonbons étaient enfilés craqua et les enfants ramassèrent à 4 pattes ceux qui avaient roulé par terre. Ils se sauvèrent dans l'autre appartement et le lièvre resta là à renifler les semelles du visiteur.
« Ce ne sont pas mes oignons, mais je suis venu vous mettre en garde. Quelqu'un va faire tomber une catastrophe sur le dos de votre mère. »
Raf y profita d'une trêve dans le va-et-vient et entama. « On va la dénoncer à la Sécurité sociale et à la police de l'immigration. Et alors, il y aura un procès. » Elle risque une amende qui va vous ruiner, elle, vous et vos sœurs. » Il enleva ses lunettes et les nettoya sur son pantalon. Yardena le regarda dans les yeux. Elle n'aurait pas pensé qu'ils étaient tellement petits. Elle tâchait de garder bonne contenance.
« Pourquoi ferait-on quelque chose de pareil ?
Il s'occupe d'immobilier, il veut acheter la maison. »
« Ça s'appelle du chantage. » « Pour ça, il y a une police, comme vous savez. »
Il se pencha en avant et baissa le ton. Si elle porte plainte, elle se dénoncera d'elle-même. » Il décrivit, en long et en large, les dangers auxquels la vieille dame s'exposerait si l'on découvrait ses fraudes. Sa main se levait et s'abaissait, les doigts s'écartaient et se resserraient. Il montra aussi les bénéfices considérables et les avantages financiers à gagner si l'on évitait la justice et si l'on consentait à vendre. « Regardez, ce n'est pas vraiment mon affaire, mais il y a marqué « Ne laisse pas verser le sang de ton prochain. » Et puis, quand on voit quelqu'un qui va tomber au fond d'une fosse, il faut le prévenir, non ?»« Je ne sais pas, moi. » »« Votre mère, excusez-moi, comme on dit, elle n'a plus tellement la tête sur les épaules. » »« Et puis, c'est vous l'aîné, tout ça risque de vous retomber dessus. » Il se redressa. Yardena remarqua de grosses gouttes de sueur qui perlaient de ses aisselles. Elle rapprocha de lui la limonade, mais il était trop occupé à achever le discours qui l'avait amené chez elle. « Vous savez, j'aime beaucoup votre maman et cela me fait mal au cœur de voir ça. La fortune qu'elle peut ramasser là suffira pour adoucir ses dernières années. Elle ne mérite pas de sortir de ce monde-ci dans l'opprobre en vous laissant ses dettes. » « Vraiment, elle ne le mérite pas. » Alors il tendit la main vers la carafe, se servit en tremblant et but le verre d'une longue traite. Yardena se taisait. Elle gardait les jambes pliées sous elle et constatait qu'il avait maintenant l'air plus libre et moins rigide. « Quel drôle de type ! Il appartient à la bande des naïfs qui veulent sauver le monde. » Il pouvait lui raconter tout ça par téléphone au lieu de se taper toute la route jusque-là. Soit il n'avait pas grand-chose à faire dans sa vie, soit les sœurs et elle ne savaient pas tout de ce personnage. Quoi qu'il en soit, elle n'avait pas l'intention de perdre son temps avec cette histoire-là. Elle lui passa l'assiette. Il prit un biscuit et, avant de mordre dedans, prononça « La petite a bonne mine, elle a beaucoup changé. » Il terminait à peine sa phrase que la bande revenait en courant. L'une des coquillettes pendait à la boucle qui couvrait l'œil de Dana. L'autre trônait sur une mèche de la jumelle.
« Herz, viens !»
Le lièvre obéit à l'ordre et sauta sur ses jambes pour suivre la troupe. En sortant, Dana lâcha encore.
« Va faire nuit. Bientôt, t'auras plus de bus pour entrer à Jérusalem. » Et on n'a pas encore acheté de lit pour les invités. Allez, Herz, amène-toi. »
Yardena ne prêta guère attention aux paroles du nouveau locataire, ni pendant qu'il les prononçait, ni après son départ avec son sac sur le dos. Mais plus tard dans la soirée, sa cigarette à la main à la fenêtre, elle se souvint de l'expression « sortir de ce monde-ci dans l'opprobre ». Ce terme lui inspirait le dégoût. Opprobre, obscène, cloporte, malpropre. Elle regardait les ficus aux cimes larges qui retombaient en pluie. Quelle différence avec les bouleaux hautains et pathétiques de Jérusalem, si élancés, si minces et tristes comme des moines, qui abritent les corbeaux sur leurs fêtes et en font tout un drame. Au contraire, la faune volatile se couche dans le feuillage des acacias dans un silence imposant. Chaque ville et ses arbres, et aussi, il faut bien le dire, chaque ville et ses morts. À Jérusalem, quand on meurt dans la honte, la ville ne se souvient que de la honte. À Tel Aviv, les morts sont morts, tout simplement. Tel Aviv n'a pas de mémoire. Comment expliquer ça à sa mère ? Comment lui faire comprendre que si on ne peut les vaincre, il faut s'allier à eux ? Que ce serait dommage de terminer 77 années de bonne conduite par une sanction pénale sur un registre de police ? Que Jérusalem, c'est une ville sainte et que les lieux saints ont une longue mémoire ? Yardena a soufflé des volutes blanches dans les ténèbres et essayé de se représenter sa mère assise sur un escabeau devant des hommes debout dans une salle d'interrogatoire ou sur le banc des accusés au tribunal. La vieille les rendrait dingues. Elle ferait peur, amuserait, jurerait, chanterait et ne laisserai rien de côté qui ne contribue à la rendre complètement sinoque. » La cigarette lui brûla les doigts. Elle l'écrasa dans le cendrier. La lune brillait sur la cime des acacias et Yardena pensa.
« Diable, il va falloir la remettre sur les rails, la vie est courte !»
Qui aurait le temps de la trimballer partout pour qu'elle fasse la guerre au monde entier? Et si on lui enlève sa roumaine, qui l'habillera? Qui la nourrira? Qui la couchera et l'aidera à se lever? Il faut la convaincre de vendre la maison, faire briller à ses yeux la fortune qu'elle allait ramasser, la vie qui s'ouvrirait devant elle et les mérites de Johann dont on ne pouvait se passer. On pouvait aussi évoquer un avenir merveilleux avec Bruno. En cas de refus, il faudrait employer les grands moyens et déclarer tout net « Maman, tu vas avoir affaire à la police, Tintin pour Bruno. Ce n'est pas un type à se compromettre avec une reprise de justice. Un gars qui a connu l'Holocauste, il ne voudra pas entendre parler de police et de prison. Demain ou après-demain au maximum, j'attendrai Dan à la sortie de l'école et je lui annoncerai que nous montons voir sa grand-mère à Jérusalem. » Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était Johann. « Pardon de téléphoner vous. Le téléphone de Simona est fermé, alors j'appelle vous. Maman, pas normale. Passez ce qu'elle raconte. Peut-être faut quelqu'un, un médecin. » Yardena n'en attendit pas. Elle savait que la Roumaine ne quitterait pas son poste, mais que ce serait cruel et malhonnête de la laisser se débrouiller toute seule. Elle laissa Dan au bon soin des jumeaux, donna quelques ordres par téléphone et partit. En arrivant, elle constata la folie qui pendait sur les murs. À toutes les fenêtres pendaient des manches rouges, des chiffons rouges ornaient les poignées des persiennes, la gouttière avait hérité une couverture de même couleur. On avait versé des cuillers de peinture écarlate sur la façade, mais on n'était pas arrivé à produire une continuité entre les taches et le gris des pierres apparaissait par endroits. Un vieux pantalon rouge ornait le portail et le cou de l'épouvantail avait eu droit à une serviette idem. Yardena stationna un long moment devant la maison, puis déclara « Je n'ai pas le choix. À Rome, soyons romains. » Elle sortit un tube de rouge à lèvres de son sac, se barbouilla les lèvres et frappa à la porte. La vieille femme était assise dans sa chaise roulante, toute recroquevillée et courbée, au milieu du salon. Un bandeau rouge lui ceignait la tête, un fil rouge, le poignet, et un châle rouge, les épaules. Johann faisait son service, un foulard rouge au cou, prête à la catastrophe et au combat.
« Madame Anna, malade beaucoup, pas à dire !»
Anna Iona regarda Yardena d'un œil éteint et prononça.
« Il faut passer la maison à l'insecticide. Il y a le mauvais œil ici. Il est entré partout, sous les armoires, sous les tiroirs, partout. »
« Bonjour, maman. On dit bonjour d'abord, non ?»
Yardena a élevé la voix, mais sa mère ne réagissait pas. La fille remarqua que sa mère avait avalé sa salive pendant que le regard reprenait un moment de sa lucidité avant de retomber dans la torpeur. Elle pensa que toute cette folie rouge était une mise en scène imaginée par sa mère. Elle s'approcha de la chaise roulante et observa de près chaque ride de la carte tourmentée qu'offraient les joues de sa mère. Plus proche encore, elle sentit l'odeur de crème bon marché que Johann lui avait étalée sur le visage.
« Maman, quitte cette chaise roulante, enlève ce foulard idiot et ça suffit avec ces simagrées !»
Pas un muscle ne bougea. Mais chez Johann, la physionomie changeait visiblement. Elle mit une main sur sa bouche, ses yeux s'agrandirent et ses sourcils se dressèrent jusqu'au haut du front. Yardena pensa.
« La Roumaine va s'évanouir. Eh bien, tant mieux, allez !»
Penchée sur le visage de sphinx de sa mère, elle la mitrailla d'une rafale ininterrompue de paroles, sans savoir si elle touchait ou si le tout se dispersait dans la nature.
« Ça suffit de faire la malade et la buse, maman. Cette fois, ça ne marche pas. Personne ne gobera plus ton histoire, voilà, c'est tout. On t'a repéré. Ça fait des années que tu roules la sécu et que tu manges aux deux râteliers. Si tu veux continuer à en profiter, faut vendre. Sinon, on te dénoncera et tu resteras là sans honneur, sans le sou, sans Johann et sans Bruno. » La vieille femme se redressa sur sa chaise roulante, crispa les poings sur ses cuisses et prononça d'une voix tranchante et claire, comme sortant d'une époque révolue de sa vie et d'une autre gorge. « Sans Bruno et sans Johann, pas question. Apporte-moi un verre d'eau, Yardena. Si c'est comme ça que tu parles à ta mère, je t'ai bien mal élevé. » Johann a pris son essor pour apporter le verre d'eau, mais Yardena l'a saisi par le bras et dit qu'elle s'en chargeait. Elle la retint et la doubla dans la course à la cuisine. Elle tendit le verre à sa mère et attendit que celle-ci ait fini de boire. « Maman, apparemment, nous aussi, tu nous as roulés. Tu as joué les dingos à merveille et tu as plus de lucidité que nous toutes. Alors, allez-y vous-même, dénoncez-moi. À part la maison, je n'ai rien à vendre. La maison, c'est tout ce qui me reste. » Elle retomba sur sa chaise, les yeux scrutant Yardena fixement. Yardena lui rendit un regard plein de dureté et se demandait pourquoi sa mère n'avait pas réussi davantage avec ses yeux d'un bleu si exagéré. Ces yeux-là auraient pu lui ouvrir bien des portes, mais apparemment, elle n'avait pas su exploiter cette ressource naturelle. Quel gâchis ! Non seulement elle n'avait pas tiré avantage de ses yeux, mais encore, aucune des filles n'en avait hérité de pareil. Ses prunelles se promenaient sur terre depuis 77 ans et n'avaient rien perdu de leur éclat. Si bleu, trop bleu. Peut-être les avait-elle reçues de quelque sauvage viking errant, ou de l'œil primordial qui avait contemplé la création à sa naissance, avant que le bleu fondamental ne se mêle aux autres bleus et ne perde lentement de sa splendeur. Malgré tout, il existait encore une ressource que Hanayona savait exploiter jusqu'à la moelle, la vieillesse. Elle savait grimper la pente dans un élan, évoluer dans la zone du pénalty de la vie et transformer les essais. Elle se jouait des règlements, enfreignait les usages et se moquait du candidaton. Hanayona, petite et chétive, vieille fillette au ruban rouge, semblait avoir été oubliée au jardin d'enfants depuis de longues années. Elle se concentra un bon moment, comme plongée dans de profondes méditations, puis déclara « Si je ne me trompe, tu as une petite fille, non ?» Un œil fermé, le deuxième fixé sur sa fille, elle ridait son front dans un vif effort de mémoire. « Alors, n'est-ce pas ?» Johann s'affola, mais Yardena garda son calme. « Maman, pas d'accord. Tu veux jouer à l'Alzheimer, ça va, mais pas sur le compte de Dan. Elle ne mérite pas qu'on l'oublie, même pour rire. » « Qui c'est qui parle ?» La vieille éclata d'un rire profond et sec qu'elle interrompit en serrant les lèvres d'un coup. « Au cas où le dénonciateur se pointe, les papiers de la maison sont cachés dans une enveloppe dans l'encyclopédie hébraïque, article Dieu. C'est l'endroit le plus logique que j'ai pu trouver. » Elle appuya la tête au dossier et ajouta encore. « Nous avons sûrement encore des bonbons à la maison, Johann. Prépare un petit sac pour Dan et s'il y a des carottes fraîches dehors, fais aussi un sachet pour Erz. » Johann s'arrangeait mieux avec les actes qu'avec les paroles. Elle courut à la cuisine tout en annonçant « bien sûr, il y a Bamba et aussi des carottes. » Quand elles furent restées seules, Yardena posa la main sur l'épaule de sa mère. « Maman, enlève ce ruban rouge, idiot. Tu ressembles à une supporter invétérée de Hapoel Jérusalem. » Hanayona rejeta la tête en arrière et observa Yardena avec étonnement. « Excusez-moi, madame, mais qui êtes-vous ? Nous nous connaissons déjà ?»